Professeur Guy Avanzini, bonjour.
Bonjour.
Professeur, vous enseignez dans le cadre de l'Institut Philanthropos. Vous êtes venu pour un module, donc c'est-à-dire sur 2 jours, 10 heures de cours. Et le module s'intitule « La personne dans les systèmes d'éducation contemporains ». Alors vous êtes docteur en philosophie, vous êtes aussi professeur émérite de sciences de l'éducation à l'Université de Lyon 2 et plus spécialisé en philosophie de l'éducation. Et puis, parmi toutes vos activités, vous êtes aussi co-auteur du dictionnaire historique de l'éducation chrétienne d'expression française. Donc, une première question, pourquoi ce sujet, la personne dans les systèmes éducatifs en anthropologie, pourquoi on évoque cette question?
Oui, bon, je crois qu'il y a plusieurs raisons qui amènent à évoquer cette question. La première, eh bien, c'est sans doute d'ordre conjoncturel, à savoir que l'école aujourd'hui est en crise. Et si on analyse cette crise, on s'aperçoit qu'elle tient non pas simplement, comme on le dit parfois, à des questions de ou à l'insuffisance des moyens, mais qu'elle tient davantage à une incertitude sur les fins de l'éducation, c'est-à-dire sur les valeurs que l'éducation doit viser, doit poursuivre, doit promouvoir. Alors dans cette situation de crise, d'obscurité, caractérisée par le fait que beaucoup d'éducateurs ne savent plus bien que vouloir, en vue de quoi et pourquoi éduquer, la question peut se poser de savoir si l'objectif à donner à l'éducation pour la réactiver, pour la renouveler, pour la réanimer, si on peut dire, ce n'est pas de la centrer sur la promotion et le développement de la personne. Le but de l'éducation n'est-il pas précisément la promotion, le développement, l'essor de la personne? Je crois que c'est la raison pour laquelle actuellement il y a lieu de se poser cette question. Et puis je crois qu'il y a une autre raison dans laquelle la première s'inscrit, c'est que quoi qu'il en soit des périodes, quoi qu'il en soit des crises ou des situations particulières, l'éducation a bien pour objet de former des personnes, elle s'adresse à des personnes, elle doit donc les aider à se construire. Et enfin, troisièmement, pour des chrétiens et dans une perspective chrétienne, cette valorisation de la personne est une finalité qui s'impose tout spécialement.
Alors, le tableau que vous nous brossez déjà est assez loin, effectivement, des systèmes éducatifs communs, en tout cas. Et dans le cadre du module, vous n'avez pas tant que ça fait une galerie des différents systèmes éducatifs possibles, bien qu'on les ait abordés, en fait, à travers les discussions et les échanges avec les étudiants aussi. Et on est abouti à développer beaucoup, enfin, vous avez développé beaucoup cette notion de doctrine personnaliste. Peut-être le terme, il faut le définir, parce que personnaliste, ça a l'air assez individuel.
Alors, c'est effectivement une confusion à laquelle le terme de personnalisme invite. Il faut distinguer d'emblée entre une éducation personnaliste et une éducation individualiste, entre un travail individuel et un travail personnalisé. Un travail individuel, au sens strict du terme, c'est un travail qui est conduit par une personne de manière isolée, alors qu'un travail personnalisé, c'est celui qui est approprié à chaque personne, ce qui peut comporter, dans tel ou tel cas, une individualisation, mais qui peut comporter tout autant un travail en groupe, enfin, ou toutes sortes de modalités différentes. Donc, une éducation qui se veut personnalisée et personnalisante, c'est celle qui tente de s'adapter aux besoins, aux désirs, aux exigences, aux attentes de la personne en cours d'éducation pour approprier les démarches éducatives à ce qui correspond à elles de la manière la plus précise possible.
Professeur Avanzini, vous avez eu besoin de commencer par redéfinir la personne, bien que dans le cas de Philanthropos, ça fait l'objet de nombreux cours, mais redonnez-nous votre définition de la personne.
Oui, je voulais donner une définition de la personne pour bien faire sentir en quoi l'éducation est, si je puis dire, partie prenante nécessairement au processus de personnalisation. Je définis la personne par deux caractéristiques. Premièrement, sa singularité. La personne, c'est un être unique, irréductible à tout autre, hein, auquel nul autre ne peut être substitué. Mais par ailleurs, cette singularité, ce n'est pas un enfermement autistique. Il y a dans la personne une dimension relationnelle. Elle aspire, et on retrouve ici son acception étymologique, elle aspire à jouer un rôle, c'est-à-dire à entrer en communication avec d'autres, hein, et par conséquent, il y a dans la personne une dimension de socialisation. Pour reprendre l'exemple que j'ai donné en commençant le module, quand on parle de la philosophie de Platon, cela signifie la doctrine philosophique élaborée par Platon, tel que si celui-ci n'avait pas existé, personne n'aurait élaboré à sa place sa philosophie, mais cette œuvre est personnelle, elle lui est propre, mais en même temps, elle est accessible, intelligible à tous, elle ne vaut pas uniquement pour lui, elle parle à tout homme, moyennant l'initiation minimale requise. Donc une personne, c'est quelqu'un qui, dans sa singularité, est porteuse d'un message, d'un potentiel, qui peut et qui doit valoir pour tous. Alors on situe à ce moment-là le rôle de l'éducation. La fonction de celle-ci, c'est de permettre à ce potentiel singulier de se socialiser, de s'inscrire dans des formes culturelles qui lui permettent de valoir pour tous, de devenir intelligible pour tous, d'être devenir accessible à tous. Donc en ce sens, l'éducation, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à la personne, c'est bien quelque chose qui lui est intrinsèquement lié, en ce sens que c'est par l'éducation que la singularité, l'unicité de la personne trouve son expression sociale.
Promouvoir la personne dans cette doctrine personnaliste, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça implique?
Alors, cela implique un certain nombre de préoccupations. Promouvoir la personne, cela implique d'abord d'être sensible à sa polyvalence et par conséquent de s'efforcer d'explorer au maximum la polyvalence de la personne, hein, c'est-à-dire de lui donner la possibilité de déployer toutes ses virtualités et non pas simplement telle ou telle d'entre elles, telle ou telle qu'elle aurait été conduite à choisir, par exemple au moment d'une détermination professionnelle, mais au contraire l'amener à aller au-delà des choix qu'elle a faits qui ont été l'exclusion de ce qui n'a pas été choisi ou retenu. Donc promouvoir la personne, c'est d'abord développer cette polyvalence. C'est aussi, c'est un autre aspect, lui donner une capacité maximale d'information et de réflexion pour lui permettre l'expression de cette singularité. Si toute personne est porteuse d'un potentiel, il faut qu'elle soit informée au maximum de données culturelles pour que cette expression soit enrichie, se socialise grâce à l'apport des autres et aboutisse à une expression neuve et originale qui est en somme l'apport de chacun à l'enrichissement de la culture. Autrement dit, si une personne est bien porteuse d'un potentiel unique, elle doit être capable d'énoncer une parole qui lui est propre, mais cette parole ne sera autre qu'un bavardage, qu'à condition que le sujet ait été informé, formé à la réflexion, pour qu'il puisse tenir une parole intelligible, porteuse de nouveautés, susceptible donc de s'intégrer à la culture humaine. On pourrait développer encore d'autres dimensions. Développer la personne, c'est développer chez elle son sens critique, c'est-à-dire sa capacité de discernement, sa capacité de juger, sa capacité de refus, sa capacité d'opposition à tout ce qui se présenterait comme contraire aux exigences de la personne humaine. Et on pourrait dire d'une certaine manière, à la limite, former la personne, c'est développer chez elle une capacité de désobéissance à toute légalité qui s'avérerait illégitime. Bon, c'est aussi, bien sûr, la former à la rencontre d'autrui, au respect d'autrui, à l'écoute d'autrui, c'est-à-dire favoriser tout ce qui est communication multilatérale de la personne avec d'autres personnes. Et puis c'est enfin l'ouvrir aux valeurs, faire en sorte qu'elle ne se contente pas de disposer de moyens de vivre, mais qu'elle découvre au maximum ses raisons de vivre, des raisons de vivre. Et c'est bien là une tâche de l'éducation que d'aider le sujet, d'aider la personne à discerner des raisons de vivre et à adhérer librement à celles qui lui paraissent devoir être retenues.
Professeur Vanzini, quand on dit promouvoir la personne, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus faciles à promouvoir, je dirais une espèce d'élite qui est très très capable, et puis des gens qu'on n'arrivera jamais à promouvoir dans aucun domaine? Vous avez employé un terme technique, celui d'éducabilité.
Oui, alors le postulat de toute pratique éducative, c'est celui de l'éducabilité de la personne, c'est-à-dire de sa perméabilité à l'éducation, de sa capacité de bénéficier des apports éducatifs, et si on s'exprime dans le registre spirituel, je dirais que c'est sa convertibilité, sa capacité permanente à la limite, disons, de sanctification. Alors, bien entendu, une personne concrète va offrir à l'éducateur un terrain plus ou moins favorable, selon que il s'agit de quelqu'un qui a d'emblée, dès sa prime enfance, bénéficié de conditions propices à son essor, et qui par conséquent va s'avérer particulièrement perméable, réceptif à l'entreprise éducative, aux apports culturels variés. D'autres personnes qui auraient été d'emblée blessées, meurtries par l'existence, frappées de différentes sortes d'inhibitions, affectées de troubles qu'elles tiendraient à des conditions malencontreuses des premières années de leur vie, elles vont offrir à l'éducateur un terrain plus difficile, plus réticent, plus résistant à l'entreprise éducative. Et c'est bien, je dirais a fortiori dans ce cas-là, que l'éducateur est celui qui ne doit jamais désespérer de l'éducabilité. On pourrait prendre ici l'exemple de Don Bosco, qui, ayant affaire à des adolescents délinquants, par exemple, qui étaient souvent présentés ou considérés à leur époque comme des pervers, considérés au contraire simplement que c'était des sujets qui avaient été pervertis par des conditions de vie défavorables, mais qui précisément n'a jamais un instant douté de leur éducabilité, et qui non seulement se proposait d'en faire d'honnêtes citoyens, mais encore d'en faire de bons chrétiens et même des saints, c'est-à-dire qui avaient à leur égard une vision très ambitieuse, en dépit de tout ce qui, dans l'apparence de ces sujets, aurait pu l'amener à n'avoir qu'une vision très limitative de leur capacité d'éducation.
Alors vous avez proposé dans ce sens l'étude de texte, notamment de Jacques Maritain, qui définissent un petit peu une vision chrétienne de l'éducation ou du système éducatif. Est-ce que justement la doctrine personnaliste est celle qui colle le plus à ce que la vision chrétienne de l'éducation veut promouvoir?
Je pense que, quoi qu'il en soit, une vision chrétienne de l'éducation ne peut pas ne pas être, d'une manière ou d'une autre, une vision personnaliste. Alors bien sûr, cette vision personnaliste sera fonction non pas simplement de la finalité chrétienne de l'éducation, mais de l'état des connaissances sur les sujets, disons de l'état des sciences humaines à un moment déterminé, qui va s'avérer plus ou moins favorable à la connaissance des virtualités de la personne. Mais une éducation chrétienne, elle est intrinsèquement personnaliste, dans la mesure où elle veut le bien, le salut, le perfectionnement, la sainteté de toute personne. Alors c'est pour cela que j'ai un peu privilégié l'exemple de Maritain, parce qu'il me paraît, parmi les philosophes contemporains, avoir été celui qui a peut-être le mieux et le plus insisté sur cette dimension. On pourrait prendre aussi un autre exemple, qui est celui du père Faure, un père jésuite, qui a centré sa pensée éducative autour de l'idée d'une éducation personnaliste et communautaire, c'est-à-dire qui voulait montrer comment la promotion de la personne, c'est aussi une promotion de la capacité de chacun à entrer en communication et à se mettre au service du groupe, de la communauté.
Alors tout ça c'est très beau de vous entendre aussi parler ainsi de cette vision de l'éducation qui va prendre en compte la personne tout entière, où il n'y a pas justement, c'est le contre-pied à l'élitisme, et pourtant les systèmes d'éducation, c'est aussi le thème du module, ont l'air de promouvoir tout à fait autre chose, même peut-être dans une certaine éducation chrétienne. Qu'en est-il et qu'est-ce qu'on peut dire, et puis par extension qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, c'est une tentation de toute éducation que de devenir élitiste, spécialement quand cette éducation se situe à un moment où la scolarisation y prend une place importante et une très forte valeur. Parce que l'école est en quelque manière portée au classement, hein, à une hiérarchisation des personnes, et du même coup à adopter une attitude élitiste qui s'exercerait au détriment de la prise en considération des personnes dans leur singularité, dans leur pauvreté. Alors je crois qu'il importe ici de signaler comment une des caractéristiques, et je dirais une des grandeurs aussi de l'éducation chrétienne, cela a été l'attention qu'elle a portée aux sujets handicapés. Et on pourrait en prendre d'innombrables exemples, je n'en prendrai qu'un qui est peut-être le plus spectaculaire, c'est celui de l'éducation des fillettes sourdes, muettes, aveugles, qui était abandonnée de tous et qui a été tentée au XIXe siècle et au début du XXe par la Congrégation des Filles de la Sagesse, qui s'est efforcée, je dirais, de découvrir chez des sujets lourdement polyhandicapés cette dimension personnelle.
Est-ce que une doctrine personnaliste peut être appliquée dans le cadre de systèmes, surtout aujourd'hui où on a de plus en plus affaire à des gens d'origine socio-culturelle très très diverses et donc il n'y a plus aucune homogénéité à l'intérieur des classes? Est-ce que le système d'éducation n'est pas démuni?
Oui, les systèmes éducatifs sont toujours plus ou moins aussi tentés par l'élitisme, tentés par la mise à l'écart de ceux qui éprouvent des difficultés. Alors je pense que le seul moyen véritable d'éviter ce glissement, c'est l'attitude des personnes, je veux dire des éducateurs, de ceux des éducateurs qui sont capables de sauver et de promouvoir ce regard à la fois personnaliste et personnalisant sur chaque personne. De ce point de vue, une pédagogie personnaliste, c'est peut-être moins le fait des systèmes, d'un système éducatif qui s'avérerait personnaliste, c'est plus le fait des personnes qui, au sein d'un système, gardent ou acquièrent cette capacité de l'attention aux personnes qu'elles ont à former.
Une dernière question peut-être, professeur Giavanzini. Le dictionnaire historique de l'éducation chrétienne d'expression française dont vous êtes co-auteur, qu'est-ce qu'il amène en quelques mots et à quoi il peut nous servir?
Alors je crois qu'il a deux fonctions complémentaires. Ce dictionnaire, quand nous l'avons conçu, enfin surtout à l'initiative de René Caillot, qui était professeur à l'Université catholique de l'Ouest et qui est celui qui a vraiment voulu la réalisation de ce dictionnaire et qui ensuite a associé à son travail le frère Pierre Pienisson, Anne-Marie Audic et moi-même. Cette intention, c'était d'abord de faire connaître cet extraordinaire capital pédagogique et éducatif, ou éducatif et pédagogique, que représente l'initiative des chrétiens à travers le temps en matière de pratique éducative et en matière de doctrine pédagogique. Il y a là un patrimoine intellectuel et spirituel considérable qui est trop méconnu, parfois négligé, et qui est aujourd'hui en risque de perte du fait de l'effacement qui affecte certaines congrégations dont la diminution des effectifs amène une certaine difficulté à sauvegarder, à énoncer le charisme fondateur. Donc la première fonction de ce dictionnaire, c'était bien d'énoncer, de sauvegarder un patrimoine. Mais il y a une seconde fonction. Notre objectif n'était pas simplement de constituer une sorte de musée de la pédagogie chrétienne, c'était aussi de montrer comment cette pédagogie est caractérisée par un dynamisme, par une vitalité qui, selon des modalités réactualisées, est tout à fait capable de dynamiser à nouveau la pratique éducative. D'ailleurs, le dictionnaire ne recense pas que des initiatives périmées, hein. Il fait place à des initiatives récentes, modernes, contemporaines, en quelque manière en cours de promotion, en cours de développement, et de ce fait, il entend bien contribuer à montrer qu'il s'agit d'un capital vivant. On pourrait dire d'une certaine manière que la fonction majeure du dictionnaire, c'est au fond, à travers une meilleure connaissance du passé, de travailler à ce que l'on pourrait appeler la transmission des charismes éducatifs des chrétiens dans une attitude de fidélité inventive, c'est-à-dire d'une attitude qui, d'une part, soit fidèle à la pensée des fondateurs, mais qui en même temps actualise cette pensée et lui permette de se déployer de manière efficace dans le contexte éducationnel actuel.
Voilà une activité tout à fait éducative d'ailleurs.
Tout à fait.
Professeur Guillaume Dini, je vous remercie.